إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le hadith numéro 20 des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et c'est le hadith concernant la pudeur. Qu'est-ce que ce hadith nous dit? Et on va citer la chaîne de transmission complète qui est chez le Bukhari, parce qu'on a quelque chose aussi à dire par rapport à cette chaîne de transmission. Le Bukhari rapporte dans son authentique que l'imam al-Qarnabi a dit « Idhan qa'an al-imam al-Qarnabi haddathani shu'bah haddathana mansour an rib'i عن أبي مسعوب عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد وابن حبان. Donc البخاري dit dans son authentique, selon l'imam القعنبي, l'imam Shu'ba nous a transmis que l'imam Mansour lui a transmis, selon Rib'i et selon le compagnon Mas'oud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna mimma adraka an-nasa min kalam an-nubuwwah » parmi les antiques, les précédentes paroles prophétiques qui sont arrivées jusqu'aux gens, c'est-à-dire parmi les anciennes paroles des prophètes que les gens saisissent encore, إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْمَعْ مَا شِئْتْ, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Hadith rapporté par le Bukhari dans son authentique, ainsi qu'Abu Daoud, Ibn Majah, Malik, Ahmad et Ibn Hibban. Alors avant d'expliquer ce que ce hadith veut dire et vers quoi il nous appelle, on s'intéresse d'abord à cet homme qu'il y a dans la chaîne de transmission qui nous a rapporté ce hadith, l'imam al-Qa'nabi. Et il dit, je l'ai entendu de l'imam Shu'ba. Il faut savoir que l'imam al-Qarnabi était un grand muhaddith, comme l'a été son maître de qui il a entendu ce hadith, c'est-à-dire l'imam Shu'ba. Sauf que parmi les centaines et les milliers de hadiths que l'imam al-Qarnabi nous a transmis, nous a rapportés, il y en a seulement un, il n'y en a qu'un seul, qu'il a entendu de la bouche de l'imam Shu'ba. C'est celui-ci. Tous les autres hadiths qu'il nous a transmis, les a entendus d'autres muhadiths, d'autres savants hadiths. Mais le seul qu'il a entendu de l'imam Shu'ba, c'est celui-ci. Comment ça se fait? Alors que généralement, les muhadiths à l'époque, ils faisaient un voyage, ils restaient des mois, voire des années avec un muhadith pour prendre de lui le plus de hadiths possible. Comment ça se fait donc que l'imam Shu'ba n'a pu entendre que ce hadith la part de l'imam Shu'ba? Comment ça se fait que l'imam al-Qarnabi n'a pu entendre que ce hadith de l'imam Shu'ba? Eh bien, on a deux récits qui nous sont racontés. L'un est faible, donc je ne vais pas m'attarder dessus. mais je vais tout de suite m'attarder sur celui qui a été authentifié. C'est qu'on nous raconte qu'en réalité, l'imam al-Qa'anabi n'a pas été un savant tout le temps. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, la première partie de sa vie, il était un pêcheur connu dans la ville. À un tel point que son fils nous raconte « Kana abi yashrabu an-nabidh wa yashabu al-ahdath ». Ça veut dire « Mon père avait l'habitude de boire le vin ». Au début de sa vie, il était un ivrogne. Il buvait le vin. « Wa yashabu al-ahdath », c'est-à-dire il prenait comme ami les petits jeunes. C'était un homme, un adulte, et il prenait des adolescents ou des jeunes gens comme amis avec qui il traînait dans la rue, avec qui il buvait et faisait les 400 coups. وَكَانَ يَحْصَحَبُ الْأَحْدَاثِ فَقَعَدَ يَوْمًا يَنْتَظِرُهُمْ عَلَى الْبَابِ. Et un jour, il s'est assis devant la porte de la maison et il a attendu que ses amis, que ses copains viennent, encore une fois, pour faire les 400 coups. فَمَرَّ شُعْبَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يُهْرَعُونَ. Et Shu'ba est passé, donc l'imam Shu'ba, le muhaddith Shu'ba, il est passé et les gens le suivaient, les gens couraient derrière lui comme s'ils avaient affaire, il y en a un roi, un prince. C'était un savant, parce que les gens respectaient les savants, en particulier les savants du hadith. Et donc, le Qa'nabi, qui n'était pas encore savant, mais qui était juste un ivrogne à l'époque, il a dit, mais qui est cet homme? Donc il s'est mis à demander aux gens autour qui couraient derrière lui, man hadha? Ils ont dit, qala shu'ba, qalu shu'ba. Ils ont dit, c'est shu'ba. Et plutôt, il s'adressait directement à lui. Il lui a dit, man hadha? Qui es-tu? Mais d'une manière un peu méprisante. Man hadha, ça veut dire, qui est-il? Tu es qui, toi, pour que les gens ils soient comme ça autour de toi? Et shu'ba lui a répondu, Shu'ba, je suis Shu'ba. Il a dit, wa ayyu shay'in Shu'ba. Mais qu'est-ce que c'est Shu'ba? C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait pour mériter autant que les gens le suivent comme ça et le respectent? Et là, Shu'ba n'a pas répondu. Par contre, les gens derrière ont répondu, muhaddith. C'est un muhaddith, il récite les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet les hadiths. Et donc, le Qa'nabi l'a attrapé et lui a dit « Hadithni ». Alors, puisque tu es un muhaddith, récite-moi un hadith. On va voir ça. Récite donc moi un hadith. « Faqala ma anta bi ashabi al-hadith ». Donc l'imam Shu'ba lui a dit « Tu ne fais pas partie des gens du hadith, les gens qui recherchent le hadith. Pourquoi je devrais te réciter un hadith ?» Donc il a refusé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le Qa'nabi qui n'était pas sobre, hein, qui était saoul? Il a pris son couteau et il l'a menacé avec son couteau. Il lui a dit, Atuhadithuni aw ajrahuk. Soit tu me donnes un hadith, soit je te blesse avec ce couteau. Je te balafre avec ce couteau. Et là, à ce moment-là, l'imam Shu'ba lui a donné le hadith qu'il lui fallait. C'est justement le hadith d'aujourd'hui. Il lui a dit, حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Parmi les anciennes paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Le prophète sallam a dit, parmi les anciennes paroles des prophètes que les gens ont encore et se transmettent encore les uns les autres, il y a celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Fasna ma'ashit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et quand il a entendu ce hadith, le Qa'nabi a jeté son couteau par terre. Il est retourné à son groupe d'amis. Mais il est rentré chez lui. Il a déversé tous les tonneaux d'alcool, toutes les bouteilles de vin qu'il avait, il a tout versé. Il s'est débarrassé de tout. Et il a changé de vie à ce jour-là, ça a été son déclic, ce hadith a été son déclic. Parce que ce hadith lui parle à lui, il lui dit, si tu n'as pas de pudeur, tu peux faire ce que tu veux. Donc il a tout déversé, il s'est débarrassé de tout le vin qu'il avait, il a quitté ses amis, il a changé de vie, il est parti à Médine auprès de l'imam Malik pour apprendre de lui la science et le hadith. Et ensuite, quand il a terminé d'apprendre pendant des années avec l'imam Malik, il est parti dans la ville d'Irak, de Basra, justement auprès de cet imam de chez qui il avait entendu ce hadith, pour avoir de lui le hadith. Et au moment où il est arrivé, on lui a dit, tu as raté l'imam Shouba, il vient de mourir. Et il a même pris la place de Shouba, finalement, quand ils ont découvert que c'était devenu un grand savant du hadith. Il cherchait justement un grand savant du hadith qui allait prendre la place de Shouba dans la mosquée pour donner les cours. Et il a pris sa place. On lui a donné sa place. Il a eu l'honneur d'avoir cette place. Mais il n'a entendu qu'un seul hadith de l'imam Shouba. C'était ce hadith-là qui a été son déclic et son repentir. Le hadith qu'on a aujourd'hui entre les mains qui nous dit « Inna مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Alors, ici, ce hadith, on va d'abord commencer par la première partie qui nous dit parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore. Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula. Ici, évidemment, ça fait référence au fait que ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas que la sienne, n'est pas que la parole du prophète, mais c'est aussi une parole que les prophètes avant avaient l'habitude de dire. Et que les gens se sont transmis les uns aux autres et qu'ils se sont transmis de siècle en siècle jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'était une parole qui était connue chez les Arabes de l'époque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise, cette parole que vous connaissez, que vous apprenez de père en fils, sachez qu'en réalité, à la base, elle fait partie des paroles que les prophètes avant moi ont prononcées. C'est une hikma, une sagesse que les prophètes avant moi ont prononcée. Donc le prophète Hassan nous informe que ce hadith, que cette parole est une parole que les prophètes avant lui avaient l'habitude de transmettre aux gens, à leur peuple. Et ça montre également que les paroles des prophètes avant nous, certaines d'entre elles subsistent encore jusqu'après, puisque les gens ont vécu avant nous, ils se sont transmis les paroles des prophètes, les uns les autres, d'une génération à une autre, jusqu'à ce que ces paroles arrivent à nos oreilles. Ensuite, ça nous montre également, cette parole, parmi les paroles, les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, puisque cette parole parle de la pudeur, ça montre que la pudeur a toujours été une qualité, même chez les prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même chez les gens, puisque les gens se sont transmis cette parole de génération après génération, de siècle en siècle, ils se sont transmis cette parole, ça veut dire que la pudeur a toujours fait partie, dans l'humanité, chez tout le peuple, d'une qualité et d'une vertu. Et ça, c'est important à comprendre et à savoir, puisque malheureusement, aujourd'hui, on vit à une époque où la pudeur est devenue, dans certains cas, un délit et un crime. Malheureusement, par exemple, aujourd'hui, quand la femme musulmane décide de se couvrir ou de s'habiller d'une certaine manière par pudeur, par religion certes, mais aussi par pudeur, c'est sa forme de pudeur à elle. Elle n'impose pas sa pudeur au reste de la société, mais elle choisit d'être pudique de cette manière. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de lois qui tendent à criminaliser et à faire de cette pudeur, qui a toujours été une vertu, une qualité dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, dans toutes les coutumes humaines, et bien aujourd'hui ça tend à la faire devenir un délit et quelque chose de mauvais, alors que ça a toujours été une qualité et une vertu. Ensuite, donc la parole que le prophète sallam cite, qu'il récite le prophète sallam, et qu'il précise que c'est une parole qui a fait partie des paroles des nobles prophètes avant lui, c'est « إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Point. Donc, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » Il y a deux compréhensions principales chez les savants à cette parole prophétique. La première, c'est que quand on entend « si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux », fais ce que tu veux, c'est un ordre. Donc, certains savants ont considéré que fais ce que tu veux, c'est l'ordre. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux dans le sens. Si tu ne ressens pas de pudeur à faire telle ou telle chose, tu y réfléchis et tu ne ressens pas de pudeur, alors fais-le. C'est un ordre. Dans quel sens? Dans le sens où, de manière innée, l'être humain ressent de la pudeur à ce qui est mal à faire, à ce qui est mauvais, à ce qui est répréhensible. Donc s'il y a une chose, tu veux la faire, est-ce que, comme le hadith dit, « istafti qalbak », demande à ton cœur. Est-ce que tu ressens de la pudeur à faire cet acte? Si la réponse est oui, ne le fais pas. Si la réponse est non, tu ne sens pas de pudeur, alors fais-le. Ce serait dans ce sens-là que le professeur Hassan aurait dit cette parole, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, dans le sens où, là où tu ne ressens pas de pudeur, c'est que ce n'est pas forcément un mal, donc tu peux le faire. Donc c'est un ordre, fais-le. Mais cette explication est minoritaire et marginale chez les savants. Même si on a d'autres hadiths qui nous disent qu'en réalité, l'être humain ressent de la pudeur de manière naturelle et innée face au péché. Sauf que ce n'est pas forcément toujours le cas et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les coutumes humaines. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, ça dépend du caractère qu'on a, ça dépend du tempérament, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ce n'est pas forcément vérifiable pour tout. Ce n'est pas dans tous les cas, dès que je ne ressens pas de pudeur, c'est que c'est quelque chose de bien, et dès que je ressens de la pudeur à faire tel acte, c'est que c'est une bonne chose de ne pas la faire parce que je ressens de manière innée de la pudeur. C'est pas forcément vérifiable dans tous les cas, donc il faut faire attention avec cette explication. La deuxième explication qu'on a des savants, c'est que le sens de la parole « fais ce que tu veux », c'est certes un ordre, mais on ne doit pas le comprendre dans le sens de l'ordre. Et ici, les savants, ils ont donné deux types d'explications. La première, c'est qu'en réalité, ici, c'est une forme de menace et d'avertissement. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, alors tu fais ce que tu veux parce que de toute façon, Allah te récompensera, ou plutôt te rétribuera, il te sanctionnera et il te donnera ce que tu mérites. Fais ce que tu veux parce que tu auras ce que tu mérites. Puisque tu n'as pas de pudeur, tu peux maintenant faire ce que tu veux. C'est dans ce sens-là. Tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, c'est pas, même si le professeur Hassan donne un ordre, il dit fais ce que tu veux, fasna ma'achet. Tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Mais c'est dans le sens, puisque tu refuses d'avoir de la pudeur, tu peux faire ce que tu veux parce que Allah te donnera ce que tu mérites. Il te fera rendre des comptes et il te punira comme il se doit. C'est comme l'ordre qu'il y a dans le Coran, i'malu ma'achetum. Faites ce que vous voulez, Allah voit bien ce que vous faites. Œuvrez comme vous voulez, comme bon vous semble, de toute façon Allah voit bien ce que vous faites. Donc certains disent c'est comme cette parole dans le sens où Allah nous dit faites ce que vous voulez. Mais est-ce que Allah attend de nous le péché? Non, mais il nous dit faites ce que vous voulez dans le sens attention, Allah voit ce que vous faites. Faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas qu'Allah voit ce que vous faites. Et donc cette parole, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, et bien maintenant que tu n'as pas de pudeur, puisque tu es arrivé à ce degré du fait de ne plus avoir de pudeur, et bien tu peux faire ce que tu veux, de toute façon Allah te donnera en échange ce que tu mérites comme rétribution. Et d'autres savants l'ont compris, toujours dans le sens où ce n'est pas un ordre, mais dans le sens où Si tu n'as pas de pudeur, si tu ne ressens pas de pudeur, alors tu peux faire ce que tu veux. Parce que c'est la pudeur qui devrait t'empêcher qui devrait t'empêcher de commettre le répréhensible et le blâmable. Et donc si tu n'as plus de pudeur, tu peux faire ce que tu veux. Parce que la seule chose qui pouvait t'empêcher de commettre le mal, c'est la pudeur. Et à partir du moment où tu refuses d'avoir de la pudeur, de toute façon, on te laisse faire ce que tu veux, puisque tu le feras. Tu n'as plus cette barrière, ce périmètre de sécurité qui permettait de t'empêcher de commettre le haram ou de commettre le mal. Comme il est dit dans un hadith, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui, le professeur Sam a dit, celui qui ment à mon sujet volontairement, il le fait exprès de mentir au sujet du professeur Sam, فليتبوأ مقعده من النار, qu'il prépare sa place pour l'enfer. Est-ce que vraiment il doit préparer? Est-ce que le professeur Sam donne cet ordre? Il dit qu'il prépare sa place pour l'enfer. Est-ce que vraiment il doit la préparer? Non, mais c'est dans le sens, sa place pour l'enfer est prête. Et donc ici, c'est dans le même sens. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est pas dans le sens, vas-y, tu es obligé de faire ce que tu veux. Non, mais c'est dans le sens, de toute façon, tu feras ce que tu veux. Tu n'entendras plus rien, tu n'entendras plus les conseils et les recommandations, puisque tu n'as pas de pudeur. De toute façon, tu n'écouteras plus rien d'autre, puisque la plus grande des barrières entre toi et le mal et le haram, c'était la pudeur. Et donc, puisque tu refuses d'avoir cette pudeur, c'est fini. Et aussi, il faut se rappeler, quand on parle de ce hadith, que quand on parle de pudeur, la pudeur, il y a deux sortes de pudeur. Il y a la pudeur qui est une qualité que nous avons de manière innée. Et il y a la pudeur qui s'apprivoise, qu'on apprend à avoir et à ressentir. Donc tout d'abord, la pudeur naturelle, la pudeur qu'on a de manière innée. Et ça, elle est propre à chaque être humain. Chaque être humain, il grandit et il ressent de manière naturelle de la pudeur vers certaines choses sans forcément qu'on lui ait enseigné d'avoir cette pudeur. Et ça fait partie des plus grandes vertus et des plus grandes barrières entre toi et le péché et l'interdit. D'ailleurs, à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr » La pudeur ne ramène que le bien. Et il s'agit de cette pudeur de manière naturelle, qui fait partie de la fitra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal nous a créé dès qu'on est avec la fitra, la pureté de la foi. Et dans cette pureté de la foi, il y a cette pudeur naturelle, innée, qui nous permet de ressentir une pudeur à certaines choses, et sans aucun doute, cette pudeur, elle nous permet d'avoir un comportement irréprochable. Le savant Al-Jarrah ibn Abdillah disait « Taraktu dhunuba haya'an 40 sana, thumma adrakani al-wara'. » Il a dit « Pendant 40 ans de ma vie, je me suis empêché, j'ai évité les péchés par pudeur. » Pendant 40 ans de ma vie, c'était par pudeur, parce que j'avais honte de les commettre. Et ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle al-wara', et al-wara', c'est la moralité, c'est-à-dire ce qui te permet d'avoir ancré en toi cette chose qui fait que tu ressens que dès qu'il y a le bien, tu veux le faire, et dès qu'il y a le mal, tu le délaisses de manière naturelle. Mais les 40 premières années, c'était par pudeur, c'est-à-dire son âme, elle le poussait à commettre le mal, mais il avait honte de le faire, donc il ne le faisait pas. Et par contre, ensuite, après ces 40 premières années de sa vie, c'était plus par honte, ni par pudeur, mais c'était par wara', par moralité. Non. La deuxième sorte de pudeur, c'est celle non plus qui est naturelle, mais que on appréhende et qu'on apprend à avoir. On ne l'a pas forcément tout de suite, et petit à petit, on apprend à ressentir cette pudeur. C'est la pudeur qu'on apprend à ressentir au fur et à mesure qu'on avance dans la religion, au fur et à mesure qu'on avance dans la spiritualité, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Allah, à connaître sa grandeur, à se rapprocher de lui. Et au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on prend conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit et que rien ne lui échappe, alors on adopte et on ressent de plus en plus cette pudeur. Et cette pudeur, elle est encore plus importante que la première. Parce que c'est cette pudeur qui te permet d'avoir et de ressentir les plus hauts degrés de la foi et de la spiritualité. C'est celle dont on avait parlé dans le deuxième hadith de l'imam Nawawi, celle qui nous disait que le degré d'excellence dans la foi, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, et même si tu ne le vois pas, il te voit. Et donc quand tu sais que Allah Azza wa Jalla t'observe à chaque instant, tu as honte de faire quelque chose qui va le mettre en colère, puisque tu sais qu'il te voit. C'est comme quand les gens sont en face de toi, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire devant eux, parce que tu as honte devant eux. Et dès qu'ils ne sont plus là, peut-être que tu vas la faire, parce qu'ils ne sont plus là. Il y a des limites que tu te fixes devant les gens que tu ne te fixeras pas quand tu seras devant ta famille, ou quand tu seras avec tes amis, ou quand tu seras tout seul. Eh bien, c'est la même chose si tu ressens qu'Allah Azza wa Jalla te voit. Il y a des limites que tu te fixeras, et donc tu n'arriveras pas à commettre certaines choses à chaque instant de ta vie, parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jalla t'observe. Et dernière chose, la pudeur peut venir du fait que tu sais qu'Allah t'observe, mais ça peut venir du fait que tu t'imagines qu'Allah va être en colère contre toi si tu commets tel acte ou tel acte, donc tu as de la pudeur à commettre cet acte-là. Ou troisième chose, et c'est une chose importante aussi à essayer d'acquérir et à développer dans sa spiritualité, dans son cœur, c'est le fait que la pudeur peut aussi venir du fait qu'on se rappelle qu'Allah Azza wa Jal nous comble de ses bienfaits, mais en échange, on a honte de ne pas être assez reconnaissant et assez gratifiant envers Allah Azza wa Jal. Quand on se rappelle tous les bienfaits dont Allah nous comble, et que malgré ça, on n'est pas assez reconnaissant, ou en tout cas, soit on n'est pas reconnaissant, soit on n'est pas assez reconnaissant, eh bien, ça va développer en nous la pudeur face à Allah, parce qu'on a honte de nous, de ne pas être assez reconnaissant. Et cette pudeur-là aussi, sans aucun doute, elle est positive et elle est utile pour notre spiritualité. Elle nous permet de gagner en foi et de gagner en proximité vers Allah Azza wa Jal. Et je me contenterai de ces axes pour l'explication de ce hadith, le hadith numéro 20 de l'imam Nawawi. Idha inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula, idha lam tastahi fasna' ma shi't. Parmi les précédentes paroles prophétiques que les gens saisissent encore et qu'ils se transmettent encore les uns aux autres, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Et avant de vous quitter, simplement je vous rappelle, pour tous ceux qui suivent le réseau de la mosquée, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp, n'oubliez pas que la mosquée, pendant ce mois béni de Ramadan, collecte vos dons, et vos dons seront utiles à la mosquée, ici, la mosquée d'Alua, qui est justement profite du confinement pour être en plein travaux et pour corriger beaucoup de choses qu'il y a à corriger dans la mosquée. Donc saisissez cette occasion du mois de Ramadan pour participer aux dons via internet que vous pouvez faire pour la mosquée. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.